au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous que je vous propose ce week-end. Mon invité a œuvré pendant de nombreuses années dans la Ligue nationale de hockey, dans l'hockey junior majeur, dans l'hockey collégial. On peut maintenant profiter de ses qualités d'observateur et d'évaluateur de talent à titre d'analyste au sein de l'équipe de TVA Sports. Et Dieu sait qu'on parle beaucoup d'évaluation ces jours-ci, pour ne pas dire ces années-ci à Montréal quand on parle du Canadien. Alors, plein de bonnes raisons finalement d'accueillir celui qui a été pendant de nombreuses années le directeur du recrutement et du développement des joueurs des Ducks d'Anaheim, originaire de Thetford Mines, nul autre qu'Alain Chesnais. Bonjour Alain.
Bonjour Mario.
Bienvenue en studio. Très content de te recevoir à nouveau. On s'était rencontrés dans un cadre semblable il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de Québécois. Il y en a même encore actuellement, qui se sont hissés là, au sommet de la pyramide, ailleurs qu'à Montréal ou Québec, avec les Nordiques, avec qui tu as travaillé
absolument.
Également.
Il y a Martin Madden Jr., qui occupe la fonction de recruteur en chef chez les Ducks d'Anaheim, recruteur amateur et professionnel également. Il y a eu également Michel Dumas, avec les Blackhawks de Chicago, qui, lui, était recruteur en chef depuis de nombreuses années, un ancien joueur des Hawks. Donc, mais pas beaucoup de Québécois ont occupé, comme tu viens de le mentionner, cette fonction-là, au cours des dernières années.
Explique-moi comment un gars de Thetford Mines, qui oui quand même s'est fait connaître dans l'hockey là, avec les Nordiques, avec les Harfans de Beauport, les Tiques de Victoriaville, mais comment t'aboutis alors que t'as ton bar sportif, ça arrive sud de Québec, comme éventuellement recruteur des Ducks. T'es pas directeur du recrutement partant, mais raconte-nous un petit peu l'histoire de ce cheminement-là.
Mais à l'époque, j'étais assistant entraîneur avec les Nordiques de Québec. Pierre Gauthier était le recruteur en chef des Nordiques. Et puis Pierre m'avait seulement contacté une bonne journée et fut nommé lui assistant gérant pour les Mighty Ducks d'Anaheim de Walt Disney. Et une bonne journée, j'ai un coup de téléphone de Pierre qui me dit est-ce que tu es intéressé, Alain, à faire du recrutement à temps partiel pour les Mighty Ducks? Je te ferai un contrat d'un an pour couvrir le Québec en premier et un petit peu là de l'Ontario, le tiers 2 qu'on appelle Ottawa Valley League. J'ai dit à Pierre, écoute, un contrat d'un an, non. Pour deux ans, oui, parce que me connaissant, je savais très, très bien que ça occuperait beaucoup de mon temps. J'aurais voulu faire le meilleur travail possible. Alors finalement, les Mighty Ducks ont accepté. Je suis devenu recruteur à temps partiel pour eux durant deux saisons. Et par la suite, ils m'ont engagé à plein temps. Et là, je faisais toutes les ligues, l'Ontario, le Québec, l'Ouest, le Canadien, l'Europe, les États-Unis. Et pour me retrouver finalement recruteur en chef durant neuf saisons.
Un job que tu voulais pas accepter au début. C'est Fred Ferreira qui te l'avait proposé.
Oui,
explique
c'est ça.
Le contexte. Comment on peut dire non à une offre semblable?
Je travaillais avec des gens à l'époque beaucoup plus âgés que moi, si tu veux, avec plus d'expérience. Les noms, c'est Richard Green et Al Guthrie. Et puis lorsque le poste m'était proposé, j'avais dit au directeur gérant, écoute, je pense que ce poste-là revient à mes deux amis recruteurs qui ont plus d'expérience que moi. Puis ça m'a fait énormément plaisir de travailler pour eux puis de donner 100% de moi-même. Jack m'avait répondu, non Alain, c'est toi que je veux là, ce poste-là. Et je m'étais dit, écoute, je voulais pas atteindre mon niveau d'incompétence. Et on sait que dans tout domaine, plusieurs personnes qui atteignent quelquefois ce niveau-là, mm-hmm. et ils risquent de très mal faire leur travail. Alors, j'ai demandé au directeur gérant de m'accorder 48 heures de réflexion. Et après, à mûre réflexion, faire le tour de tout ça, j'ai décidé d'accepter en disant, oui, je pense que je peux réussir à faire le travail. Inutile de dire que ça a pas plu à mes deux amis lorsqu'ils ont eu l'annonce, justement, que je devenais recruteur en chef. Ils ont pris ça d'une très mauvaise façon. Le repêchage était à Pittsburgh, je m'en souviens toute ma vie. Et puis les deux étaient dans leur chambre puis ils pleuraient de pas avoir eu le travail. Moi, je suis allé les rencontrer en leur disant, écoutez, les gars, j'ai décidé d'accepter le poste. C'est le directeur gérant qui me l'a offert. Je pense être capable de faire le travail, même si je suis plus jeune que vous. Mais là, je vous vois pleurer, je vous vois bouder, chacun sur votre côté. Je me rends compte de la grande différence qu'il y a entre moi et vous. Alors là, ils ont été surpris tous les deux. Ils ont dit, c'est quoi la différence? La grande différence, c'est que si un de vous deux aurait eu le travail de recruteur en chef, j'aurais été le premier à aller le voir, lui donner la main, puis lui dire, félicitations, puis je vais travailler pour toi à 100%, donner tout ce que je peux pour bien réussir. Tandis que vous autres, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous pleurez et vous boudez à cause que vous n'avez pas le travail. Il y a une grande différence en partant. Et ça a tranquillisé la situation. Il y en a un qui l'a plus ou moins accepté, puis qui a été remercié de ses services pas longtemps après.
Comment devient-on un recruteur qui se fait offrir des jobs de directeur du recrutement? Est-ce qu'à un moment donné, on fait son nom sur quelques choix de repêchage. Je dirais, hey, c'est lui qui a repêché un tel. C'est lui qui nous a allumé sur un tel. Tu sais, quand tu fais une rétrospective, quand tu t'examines ou t'examines ton ascension, tu peux-tu attribuer l'évaluation qu'on faisait de toi à quelques-uns de tes choix de repêchage?
Qu'est-ce que le directeur général à l'époque, Jack Ferrara, m'avait répondu? J'ai répondu, pourquoi moi? Il m'a demandé la question. Il m'avait dit, écoute Alain, lorsque des rencontres de recruteurs, des meetings de recruteurs, puis que vous argumentez sur les joueurs, il n'y a jamais beaucoup de zones grises avec toi. Et lorsque tu te poses une question, tu n'es jamais assis entre deux chaises, tu donnes ton opinion avec tes arguments et directement. Alors, est-ce que je l'aime? Oui, voici les raisons. Est-ce que je l'aime pas? Oui, voici les raisons. Et lorsque j'avais à choisir entre deux joueurs, j'étais très tranchant par rapport à ça. Et c'est une facette peut-être de la façon de que je fonctionnais que plus aux directeurs gérants. Et c'est la raison, une des raisons principales qui m'ont offert le travail.
As-tu aimé être directeur du personnel, du recrutement d'une organisation comme les Ducks? Est-ce que tu sentais qu'il y avait beaucoup de pression à ton endroit avec les différents boss qui se sont succédés parce que ça a circulé pas mal autour de toi?
Ah, quatre directeurs gérants différents. Non, c'était très intéressant. Écoute, c'est un travail qui est très enivrant. Là. Tu parcours le monde entier à la recherche de l'appel rare qui n'est pas souvent le choix de premier tour que tu fais, mais le choix que tu vas réussir à obtenir en quatrième, cinquième tour qui va faire ton équipe un jour, ton organisation pour les rendre meilleurs. Alors, c'est très enivrant, beaucoup de voyages. Écoute, j'étais très tout nouveau dans le domaine, alors j'apprenais à tous les jours. Et on apprend souvent de nos erreurs également, Mario. C'est pas une science exacte comme tout le monde le sait. Mais écoute, j'ai adoré ce travail-là. Très, très exigeant cependant. C'est peut-être l'un des travails les plus exigeants dans le hockey. T'es jamais à la maison, tu vas partir sur la route. Dans les 20 ans passés avec les Ducks d'Anaheim, là, j'ai passé l'équivalent de 5 ans à plein temps d'une chambre d'hôtel. Parce que je regardais toutes mes statistiques, les limités que j'ai passées à l'hôtel. Alors, c'est 5 ans quand même, t'es loin de ta famille et puis que tu travailles seul et que t'es au loin continuellement. Mais c'est très enivrant, comme je disais.
Est-ce que c'est frustrant parfois, par exemple, quand toi, t'as une idée assez claire sur un joueur, est-ce que ça arrive que t'as un boss qui écoute pas puis qui fait exactement ce qu'il veut faire, qui échange un choix que toi, tu dis non, touche pas à ça. Comment ça se passe? Tu sais, on arrive à la date limite des transactions là, ouais. Très bientôt. C'est une période très fébrile. Comment tu vivais ça comme directeur du recrutement, toi?
Mais écoute, nous autres, les recruteurs, c'est sûr, lorsqu'on repêche un joueur, c'est comme le petit bébé, hein. C'est comme notre fils qu'on vient de repêcher. Puis, lorsqu'il quitte l'organisation, pour n'importe quelle raison, une transaction ou autre, ça nous fait mal. On veut tous garder nos jeunes joueurs, c'est bien entendu. Mais notre travail, c'est de recruter les joueurs et le gérant de s'en servir pour améliorer l'organisation. Donc, faut être conscient également que le directeur gérant a un travail à faire. Puis, très souvent, peut se servir de ses choix de repêchage, de ses jeunes joueurs, de ses jeunes espoirs qui ont été repêchés, s'en servir pour faire avancer l'organisation dans la bonne direction.
Si tu repêches bien, ça devient des actifs.
Ah oui,
qui jouent
pour
toi ou pour une autre équipe.
Et ça, faut que tu acceptes ça comme recruteur. Mais au tout début, là, je me souviens toute ma vie, j'étais recruteur à temps plein. À l'époque, le recruteur en chef, David McNabb, on est dans un tournoi en Europe, en Allemagne. Et là, je vois mon recruteur en chef, David McNabb, dans tous ses états, le téléphone cellulaire, puis il parcourait l'aréna, le long en large. Je me disais, ce qui se passe ici, c'est que j'étais seul avec. Il vient me voir, il dit, Alain, notre directeur gérant va échanger notre premier choix de pêchage. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, voyons, qui ça? Il va échanger Chad Kilger. Il dit, ouais, ça n'a pas d'allure, Chad Kilger. Après ça, il revient, il dit, il va échanger l'autre aussi qu'on a repêché, Oleg Fedorsky. Mais j'ai dit, pour qui ça? Il dit, pour Teemu Selänne. Nous, comme recruteurs, on était assommés, là. Mais c'était une transaction formidable pour les Mighty Ducks du temps parce que Teemu Selänne est arrivé à l'AM, il a fait la combinaison, la paire offensive avec Paul Kariya. Ils ont fait des Mighty Ducks, ils ont emmené de la crédibilité à l'organisation. On a connu une saison extraordinaire. Mais je me souviens, à l'époque, on était tous les deux en Allemagne, là, dans l'aréna, puis on pleurait parce qu'on venait de perdre nos deux fils, là, tu sais. Alors, faut comprendre que comme recruteur en chef, tu repêches et ton directeur gérant va se servir de ces choix-là pour essayer d'améliorer l'organisation, justement.
Il y a des transactions ou des décisions d'un DG qui tourne pas aussi bien, par exemple. Puis je me rappelle que tu me l'avais raconté, mais pour le bénéfice des auditeurs qui ne l'ont jamais entendu, par rapport à Eric Carlson, qui était au centre de bien des discussions, Alain. Hein?
Oui, à l'intérieur de ma carrière de recruteur-chef, aucun gérant n'a intervenu dans ma décision lors du premier tour. Jamais. On me laissait, avec les recruteurs, déterminer le joueur qu'on voulait repêcher, puis nous laissait complètement libre de le faire. Mais lors de ce fameux repêchage-là, ben écoute, on avait Eric Carlson, 7e au total sur notre liste, donc on l'avait très, très haut. Mais à l'époque, faut comprendre, 5 pieds 10, environ 160 livres, 159 livres, là. C'était pas le joueur et le plus gros gabarit. Puis le directeur gérant d'époque, c'est M. Brian Burke, qui lui, il trouvait qu'on avait Carlson beaucoup trop haut sur notre liste, sans l'avoir jamais vu jouer, cependant. Et il m'avait dit, à la table de repêchage, on repêchera pas un défenseur de 159 livres. Alors, on a échangé notre choix pour aller plus loin dans le repêchage. Et finalement, on a récupéré Jake Gardner, qui n'est pas un mauvais joueur avec les Leafs de Toronto, mais c'est loin d'Éric Carson. Et quand les Sénateurs d'Ottawa ont vu qu'on avait reculé dans le repêchage, eux, là, aimaient Carson comme ça n'avait pas de bon sens. On fait une transaction pour s'avancer devant nous, être sûr qu'on le repêcherait pas. Et puis finalement, bien, écoute, c'est ce qui est arrivé. Les Sénateurs ont mis la main sur un joueur qui a maintenant 2 trophées Norris.
Tu t'imagines la réaction des dépisteurs des Sénateurs d'Ottawa quand ils ont appris que dans l'échange Turris, Duchesne et compagnie, que premièrement, le premier choix de 2017 était parti, le premier choix de 2018 qu'ils peuvent transférer en 2019 est parti, puis un troisième choix également lors du prochain repêchage. Un département de recrutement là, accueille ça comment, une transaction comme celle-là, qui ressemble à une catastrophe en ce moment-là?
Ben, ça en est une, finalement. C'est très difficile parce que tu sais pas le repêchage de 2019, comment il va être, là, et tu sais pas à quelle position les Sénateurs vont terminer. C'est vrai qu'ils terminent 25e, 26e, mettons, dans les 5, 6 derniers, là, et puis que tu repêches dans les 4, 5 premiers ou les 5, 6 premiers, puis qu'il y a un joueur extraordinaire que tu peux avoir puis tu le regardes passer. Ça te risque de te rattraper, pas seulement à moyen terme, mais à court terme également. Donc, il faut que tu tiennes à tes choix de repêchage. À moins d'obtenir un joueur qui transforme complètement ton organisation, je suis pas sûr que c'est le cas que Matt Duchesne présentement, là, que je ne vais pas rien lui enlever. Tout le monde sait qu'il connaît une très belle carrière, c'est un excellent joueur, mais les Sénateurs, c'est difficile pour eux présentement. Mais comme tu viens de mentionner, Mario, pour un recruteur en chef, pour le recruteur, et je suis convaincu que Pierre Dorion le sait très, très bien. Il était recruteur en chef lui-même. Lorsque tu perds des choix de premier tour et de deuxième tour, ça nous fait mal au cœur comme recruteur de ne pas avoir à repêcher lors de ces rondes-là. Là.
Alain Chesnais, qui a œuvré là des décennies dans le monde du hockey, maintenant à TVA Sports, qui a été directeur du recrutement des Ducks d'Anaheim pendant plusieurs années, qui a passé 5 années, tu l'as calculé, dans une chambre d'hôtel et des milliers de kilomètres dans les airs, en voiture également, ouais. Et dont une aventure dont tu vas te souvenir toute ta vie, j'imagine. Ouais. Un accident que tu avais vécu avec d'autres dépisteurs en République tchèque, oui. Ou en Slovaquie. J'aimerais ça que tu nous racontes ça tout juste après la pause, Alain. Alain Chesnais, notre invité.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour. Notre invité aujourd'hui est Alain Chesnais, analyste à TVA Sport, ancien homme de hockey, coach junior majeur, assistant entraîneur avec les Nordiques de Québec, dépisteur, directeur du recrutement avec les Ducks d'Anaheim. Tu parlais des nombreuses nuits que tu as passées dans une chambre d'hôtel, comme c'est le cas de bien des dépisteurs, et tu en as fait du millage sur les routes là, en Amérique, en Europe. Une mésaventure, toutefois, à un moment donné, en revenant d'un match où tu allais observer des talents, un accident qui aurait pu être fatal, Alain.
Oui, absolument, c'était difficile. Ce fameux tournoi estival qu'il y a eu à chaque année là, au mois d'août à Piastani et à Breclav en République tchèque. Et on se base constamment le recruteur à Bratislava en Slovaquie. Alors, on revenait d'un match qui avait eu à Breclav en République tchèque, et puis il était environ à 11h le soir, 10h30. Et sur le... En fin de compte, sur la grande route, si tu veux... On se rend compte, on allait très, très vite. Moi, j'étais assis en arrière du conducteur, puis je voyais qu'on allait très vite. Puis là, mon conducteur était notre recruteur à temps partiel en République tchèque. Et je me suis levé la tête un petit peu, Mario, pour voir à quelle vitesse qu'on allait. Puis on allait au-delà de 100 000 à l'heure.
T'étais assis en arrière?
Oui, j'étais assis en arrière. Alors, j'étais pour lui dire, écoute, lève le pied, là, parce que c'est beaucoup trop vite. Et en lui disant ça, je m'aperçois qu'il y a un auto... une espèce de petite minivan qui essayait de faire comme un genre de U-turn, excusez l'expression anglaise, dans le milieu de la voie, si tu veux, et on a rentré dedans là, complètement, là, on l'a frappé de plein fouet. Et puis, c'était très difficile parce que tout le monde était blessé quand même assez gravement. Le conducteur a eu une hémorragie interne. Le compagnon de droite en avant, c'était Tim Murray, l'ancien directeur gérant des Sabres de Buffalo. Lui, les deux mains ont traversé le windshield et le pare-brise. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a toute lacération au niveau des bras, fracture au niveau des avant-bras. Mon recruteur, qui était recruteur à temps plein pour les Ducks en Europe, en Suède, à ma droite arrière, assez arrière, lui a eu la... On peut dire comme si c'était l'articulation de la hanche. C'est comme si sa jambe droite a sorti de l'articulation de la hanche. Et puis moi, finalement, c'était moi qui étais le pire dans tout ça. Je le savais pas, mais à l'hôpital, ils ont été chanceux. Il y avait un médecin américain, l'équipe américaine, qui est venu nous voir immédiatement. Et puis il m'a dit, écoute, toi, t'as 3 fractures dans la jambe, t'as de l'épaule émiettée, l'épaule gauche. Alors finalement, il m'avait conseillé, il dit, écoute, fais-toi opérer, pas ici, là, ils sont pas équipés pour ça. On va faire transférer en Autriche, et puis un hôpital qui s'appelle Mistelbach, mais ça, toute ma vie. Et puis, on m'a transféré en Autriche, on m'a opéré le lendemain matin d'urgence, et puis j'étais quand même demeuré une dizaine de jours là-bas. Et puis, j'ai perdu environ 35% de ma mobilité de l'épaule gauche. Mais écoute, ça a été, on aurait pu y rester, parce que c'était les recruteurs qui étaient présents à ce tournoi-là, sont arrivés derrière nous, également, là, sur cette voie-là. Et puis là, ils étaient certains qu'on était tous morts, finalement. Il y en a qui ont nous dit, Alain, ça n'a pas de bon sens, on pensait que c'était mort, d'avoir l'auto, comment elle était toute détruite, là. Alors, finalement, tout le monde, on s'en est bien tiré dans les circonstances. Et moi, ben, écoute, bon Dieu m'a aimé cette journée-là parce que je suis encore ici aujourd'hui. Puis ça a été quand même un accident qui m'a marqué là, parce que je suis retourné par la suite au même endroit pour faire du recrutement. Puis à chaque fois que je passais, je savais exactement où c'était arrivé et ça me rappelait pas de très bons souvenirs.
C'est en quelle année ça, Alain?
2002.
Est-ce que ça a fait en sorte que tu as remis en question ton travail de dépisteur, de promener partout? Non,
pas du tout. Écoute, j'ai été vraiment ébranlé. Ça a pris du temps. Écoute, avant que tout ça revienne au normal, j'ai été quelques mois à la maison en convalescence, mais c'est arrivé l'été. Et là, le cadrement des docs commençait au mois d'octobre, puis là, j'avais de la misère à marcher, j'étais magané, là, tu sais, j'étais pas dans un état parfait. J'ai décidé quand même de m'y rendre. Fait que j'ai pris l'avion et puis j'étais pas vraiment bien équipé. Ma conjointe avec moi à l'époque, je m'en souviens très bien, et puis me suis retrouvé à Nîmes. Je voulais voir mes jeunes joueurs absolument. Alors, j'étais là à peu près 4 ou 5 jours, puis je suis retourné à la maison, puis je n'étais pas en état de poursuivre mon périple à Anaheim. Mais je voulais voir mes jeunes joueurs qu'on avait repêchés, voir comment ils réagiraient. Puis, par la suite, je n'ai même plus pensé aux accidents comme tels. Je savais bien qu'un jour, ça pouvait arriver, mais quand? Alors, c'est arrivé.
Est-ce que ça crée un lien, là? Tu parlais de Tim Murray puis les autres, là, d'avoir vécu cet accident-là. Je sais pas, vous êtes déjà retrouvés à nouveau les 3-4 gars ensemble, à un moment donné, des années plus tard?
Oui, c'est arrivé, évidemment, avec les Docs également. Et puis, on s'est remémoré tout ça, puis on tous dit qu'on était très, très chanceux dans les circonstances, là. Écoute, vraiment, là, parce qu'on a ce qu'on a vu, l'auto, la façon qu'elle était détruite pratiquement, là, complètement. Donc, on a été chanceux de s'en sortir correctement malgré tout,
là. De retour au hockey, à ton travail d'évaluation. C'est tellement important, l'évaluation du talent. Là, t'as des grosses années. Il y avait des bons joueurs disponibles dans ces années-là, là, début du millénaire. Ouais. Là, t'en as repêché. Vous en avez repêché des vraiment bons. Au cœur de beaucoup d'instabilité à travers tes directeurs généraux, comment t'es-tu déjà demandé si d'un DG à l'autre, t'allais garder ton emploi?
À chaque fois, on y pense. Parce que le nouveau directeur gérant qui arrive, Mario, lui, bien souvent, va emmener ses gens de confiance. C'est tout à fait normal. Il va emmener les gens qu'il connaît, les gens à qui il fait confiance. Alors, lorsqu'un changement de directeur gérant, immédiatement, tous les recruteurs sont nerveux. Et puis, on est fébrile en pensant, bien, écoute, est-ce que je vais garder mon emploi? Et puis, j'étais chanceux encore une fois parce que, malgré les changements de directeur gérant, j'ai toujours réussi à garder mon emploi. Et puis,
il y a une fois que tu as eu un appel de Brian Burke.
Ouais. Ah oui.
Je pense qu'on est en 2005, dans ces années-là. Puis, avant de savoir ce qu'il va te dire, tu penses que c'est terminé? Parce
oui,
que lui, il vient d'arriver, en quelque sorte.
Il vient d'arriver comme nouveau directeur gérant des Docs. Je sais, dans cette journée-là, il appelait tous les recruteurs pour leur dire qu'est-ce qui se passait. Puis, je savais qu'il avait appelé Tim Murray pour le remercier de ses services. Juste avant moi, là. Alors, lorsque le téléphone a sonné, il m'a dit, ben, c'est Brian Burke, puis je vais juste te parler, puis bon, la situation actuelle avec les Docs, c'est ci et ça.
Tu penses c'est cuit, toi?
Alors, moi, je pense que c'est terminé. Je lui ai dit, il va emmener les gens qu'il connaît, puis j'ai rien à dire, tout simplement. Bien souvent, c'est pas une question de compétence, Mario, dans le domaine. C'est que le directeur gérant connaît des personnes, des amis à qui il a confiance, des gars de hockey. Et c'est tout à fait normal qu'ils veulent s'entourer de ces gens-là. Alors, moi, je m'attendais au pire. Je me mettais ça au pire en sens que pour me préparer. Alors, s'il me dit le pire, je vais être préparé pour le pire. Puis s'il me dit que je demeure, ben heureux. Alors, c'est ce qui est arrivé, finalement. Il m'a dit, écoute, on va te garder encore. On verra pour une négociation de contrat un peu plus tard. Mais pour l'instant, tu demeures avec les Docs. J'étais très heureux.
Ouais. As-tu signé un nouveau contrat avec lui éventuellement?
Oui, par la suite, oui. Oui.
Ouais. Et t'as poursuivi, c'est avec les Docs que t'as cessé tes activités dans la Ligue nationale?
Oui, c'est la seule équipe pour qui j'ai travaillé comme recruteur, les Docs de Nîmes. Et puis, j'ai commencé, comme je disais, à temps partiel. Et puis, j'ai gradué. J'ai franchi les étapes, les échelons avec un très, très bon groupe de recruteurs. Puis maintenant, c'est Martin Madden Jr. qui m'a remplacé. Lorsque je voulais seulement ralentir, j'avais suggéré à Bob Murray d'amener Martin, qui travaillait à l'époque avec les Hurricanes de Caroline. Je le voyais très souvent dans les arénas, puis je trouvais que c'était un jeune homme très sérieux, puis qui avait une bonne vision du jeu. Puis alors, j'avais suggéré son nom à Bob Murray comme recruteur en chef. Et Bob m'avait dit, écoute Alain, j'en ai d'autres aussi en tête, je vais téléphoner à tout le monde, m'a permission de leur parler, et puis je te reviendrai là-dessus. Puis finalement, et au bout d'à peu près d'une semaine, Bob Murray me dit, Alain, après avoir parlé à tous les gens et puis les personnes en question, finalement, t'as bien raison, c'est Martin Madden que je vais engager. Et puis Martin a accompli un travail absolument extraordinaire avec les Ducks d'Anaheim. Écoute, on voit les joueurs qu'ils repêchent à chaque saison, là, c'est absolument formidable.
Ça pique ma curiosité. Tu sais, je te parlais du fait que comment toi t'as grimpé l'échelon, comment on a découvert que t'étais un gars qui faisait bien son travail comme évaluateur de talent, comment tu te prononçais, mais toi comme patron donc maintenant ou à l'époque du département de recrutement, comment tu faisais pour savoir si tes recruteurs étaient bons ou si finalement à un moment donné tu te mettais à douter de leur jugement. Explique-moi comment ça fonctionne parce que c'est encore de même là dans la vie. Comment tu fais pour savoir si ton dépisteur fait un job?
On lit les rapports, hein. Les recruteurs font des rapports sur leur ordinateur, puis moi comme recruteur en chef, mais lorsque j'avais une journée de congé, j'ai passé ma journée à lire les rapports des recruteurs, qu'est-ce qu'ils pensaient de tel joueur, les joueurs que j'avais vus également. Alors, je peux faire des comparaisons entre les recruteurs, quel genre de vision qu'ils ont du joueur en question. Et puis, ça me permettait d'évaluer également si le recruteur avait l'œil nécessaire pour détecter le talent, pour faire en sorte que l'organisation puisse progresser.
Des fois, tu vas-tu faire ça genre une couple d'années après un repêchage?
Non, ça se fait quotidiennement, Mario. Quotidiennement.
Mais tu sais, un exemple, admettons, tu te rends compte qu'un tel, une organisation a vu, là, trouvons un nom, tu sais, un gars qui est sorti en troisième ronde, Braden Point, là, ouais. Tampa Bay, qui est un centre numéro. Bon, mettons, tu sais, ton organisation, personne t'allumait là-dessus, sur ce gars-là. Est-ce que t'es tenté d'aller lire les rapports qu'il y avait sur Braden Point, savoir s'il fait un job?
Oui, absolument. Mais une chose, t'as tout à fait raison, on le fait toujours. Mais moi, avant de commencer un meeting, une rencontre recruteur finale, disons, on fait nos rencontres très, très souvent après là, les essais combinés à Toronto, là, au mois de mai. Et puis, qu'est-ce que je faisais avec les recruteurs? Je mettais le nom des joueurs qu'on avait manqué l'année précédente. Et là, on essaie de trouver pourquoi on avait manqué ces joueurs-là. Il y a des raisons pourquoi qu'on a mis ce gars-là au troisième tour, puis ou qu'on l'a mis au cinquième tour, puis que finalement, c'est un joueur qui est extraordinaire. Là, on l'a mis trop loin, c'est notre fils. Pourquoi? Alors, il y a tout le temps une dizaine de noms, j'ai mis le tableau, là, puis j'ai dit, là, on va commencer par faire nos classes, là. On a manqué ces joueurs-là, on a une raison qu'on les a manqués, puis on fait le tour, on sait pourquoi. Quel dénominateur commun qui a fait en sorte qu'on a manqué ce joueur-là qui aurait pu aider notre organisation? Je le faisais à chaque année. Pour pas qu'on répète la même erreur, là, c'est bien clair. Tu veux être parfait lors du repêchage, ce qui est impossible, faut s'entendre.
T'es pas content d'échapper à un joueur, là.
Non, parce que tu sais, ton organisation te fait confiance, ils veulent progresser, ils veulent s'améliorer, puis... Et si le joueur que t'as manqué rend service à l'autre organisation, non, c'est des rivaux, là. Tu veux absolument gagner, toi, là, comme équipe. Et puis, tu veux essayer de repêcher les meilleurs joueurs possibles. Et faut faire nos classes, puis faut admettre les erreurs qu'on a commises, puis de pas les répéter.
As-tu trouvé le dénominateur commun? Y avait-tu quelque chose qui ressemblait dans chacun des gars que vous échappiez? Puis j'ai envie de penser un peu au gabarit, parce que c'est souvent les petits gars.
Mais il y avait deux raisons. Première des raisons, c'est le gabarit. Des fois, on accordait trop d'importance à la grosseur du joueur, et puis peut-être qu'on laissait trop de côté le joueur à plus petit gabarit qui pourtant est extraordinaire. Deuxième des choses, on parle toujours de l'attitude du joueur, là, son caractère. Il y a des joueurs excessivement talentueux qui n'ont jamais réussi parce qu'ils manquaient de caractère et pas l'attitude nécessaire. Et puis, c'est un dénominateur commun qui revenait très souvent également. Mais l'aspect des petits joueurs, là, oui, on a fait des erreurs face à ça parce que, écoute, peut-être qu'on les observait pas assez. Puis moi, j'ai un recruteur, écoutez, là.
Il est trop petit.
Il est trop petit. Mais regardez les statistiques, là. Il est le meilleur de son équipe. C'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue junior dans laquelle il joue. Il nous le dit qu'il est bon, là. Il nous le dit qu'il est bon. C'est peut-être mieux de le regarder un petit peu plus souvent, là. Hein? À chaque fois que tu vois les sommaires de match, 3 buts, 2 passes, 2 buts, 2 passes, il nous dit au recruteur, écoutez, les boys, je suis bon, là. Alors, on va regarder, hein, avant de dire, discarter complètement, là. Alors, faut prendre le temps d'analyser ça, puis d'admettre les erreurs qu'on commet. Si on n'admet pas ça, Mario, on va pas nulle part, là. On n'a jamais qu'on va s'améliorer.
Faut être humble, hein, puis
ben oui.
À un moment donné, faut reconnaître ses erreurs, faut savoir pourquoi. Puis j'imagine que tous les départements de recrutement de la Ligue font cet exercice-là.
Je suis convaincu. Écoute, s'ils font pas ça, ils font une erreur extrême, là.
Alain Chenet, notre invité, c'est vraiment fascinant pour quiconque s'intéresse au hockey et à l'évaluation de talent. Et justement, en matière d'évaluation, je vais t'amener dans des sujets plutôt d'actualité, peut-être au retour de la pause, pour voir comment t'évalues tel ou tel joueur. On pourrait peut-être parler d'un certain capitaine, d'une certaine équipe, à Montréal notamment, et de sa valeur. De retour avec Alain Chenet dans un instant.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Alain Chesnais, notre invité aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. En tout cas, moi, je me régale de t'entendre, Alain, nous parler du métier de dépisteur, du métier de directeur du recrutement. Parlons de sujets, si tu le veux bien, pour jouer le jeu un petit peu d'actualité. Est-ce que tu as l'impression que Max Pacioretty a une bonne valeur actuellement dans la Ligue s'il était impliqué dans une transaction? Penses-tu qu'un Marc Bergevin pourrait aller chercher quelque chose comme ce que Joe Sakic est allé chercher, tiens, pour un Matt Duchesne? Ou, quoique, encore là, on voudrait même un joueur qui peut avoir un impact plus important dans le présent, tandis que les autres se sont tournés vers un Samuel Girard qui va avoir un impact rapidement, mais plus dans le futur.
Écoute, Max Pacioretty, Mario, a une valeur extraordinaire dans la Ligue nationale de hockey pour bien des raisons. D'abord, c'est un marqueur qui, en moyenne, marquait 35 buts par année depuis de nombreuses saisons. Il y a encore un contrat qui est très potable, bien en deçà de ce que les marqueurs de 35 buts peuvent faire. Le marqueur de 35 buts, maintenant, la Ligue nationale va gagner tout près 7 millions de dollars par saison, peut-être même plus, et c'est pas le cas de Max Pacioretty. C'est sûr qu'il y a une valeur extrême pour le Canadien de Montréal, mais veux-tu vraiment l'échanger?
Ben, je te le demande. Mettons que là, t'es Joe GM, puis t'es mon adjoint, là. Je te demande, Alain, je veux ton opinion. T'as travaillé 25 ans dans cette ligue-là, là. Qu'est-ce qu'on fait?
Deux choses là-dedans. Est-ce que le propriétaire est prêt à faire une construction complète de l'organisation? Ou s'il veut encore une fois, l'an prochain, avoir une bonne saison, réussir à faire les séries éliminatoires? Faut d'abord que tu poses cette question-là et y répondre. Écoute, reconstruction complète, là, c'est plusieurs années à attendre que les jeunes joueurs arrivent.
Échanger Pacioretty, pour toi, c'est une reconstruction complète?
Ben, je pense à partir d'une grande reconstruction. Parce que, on sait que le Canadien à 5 contre 5 marque pas beaucoup de buts. Alors, si tu t'échanges des joueurs qui, eux, marquent des buts, là, qui va marquer des buts après, là? T'échanges ce joueur-là pour des choix de premier tour, pour des bons jeunes joueurs qui vont arriver, mais qui sont pas là présentement, qui sont pas encore établis, et on cherche toujours le fameux joueur de centre. Alors, il faut que tu te poses cette question-là. Sans dire, Mario, peut-être le thème reconstruction complète est un petit peu fort, mais reste que si t'échanges Max Pacioretty, il faut que tu sois prêt à attendre quelques années avant d'être compétitif encore, c'est bien clair, là, en ce qui me concerne, du moins. Alors, faut que tu te poses la question au nouveau propriétaire. T'es-tu prêt à faire ça, ou si tu veux que l'an prochain, en faisant quelques petites transactions, en essayant de mettre un renouveau à cette organisation-là, avoir un esprit d'accord qui est plus présent, parce qu'il ne l'est pas présentement, je crois, avec les Canadiens, qu'on puisse réussir malgré tout à faire des séries éliminatoires, ou bien, écoute, on commence présentement une grosse transition dans l'organisation, et puis on va
Elle est commencée, t'as pas l'impression. Tu sais, regarde le flanc gauche en défensive, regarde la filière russe, il y aurait juste Galchenyuk qui pourrait être l'échanger selon toute vraisemblance. C'est quoi, sinon ça, à quoi on assiste, non?
Oui, mais là, c'est pas vraiment, Mario.
C'est du rafistolage.
Mais si regarde la défensive du Canadien, là, écoute, défensive qui est très lente, là. Sauf Victor Mété, qui est un excellent patineur. Les autres défenseurs, on peut pas dire c'est des fusées sur patins. Et puis, comme on mentionnait tantôt, la dynamique de la nationale hockey, maintenant, il faut que tu sois rapide. Comme défenseur, récupération de rondelles, ben, le relance de l'attaque dans le jeu de transition. C'est pas nécessairement le cas du Canadien de Montréal présentement.
Il y a juste Petrie pour dire, là, qu'il peut transporter la rondelle, quand même.
Il est quand même bon, Jeff Petrie, mais.
Mais il paraît mal dans une brigade qui est un peu échevelée.
Il est capable du meilleur et du pire, là.
Alors, également. Mais tout le monde paraît mal quand ça va mal un peu, non?
Ben, c'est sûr que la confiance n'est pas toujours au rendez-vous, que les joueurs
sans la briller.
Plus nerveux, puis ils précipitent leurs gestes. On peut mettre ça sur beaucoup de raisons, là. D'ailleurs, quand même, pas moins qu'il y a du travail à faire au niveau de la mobilité arrière des défenseurs du Canadien.
Qu'est-ce que tu penses du jeu de Jonathan Drouin cette année? Je pense que tu as accueilli favorablement la transaction Sergachev-Drouin. On parlait de la réaction des dépisteurs à une transaction. Échanger Sergachev comme échanger McDonald en temps, c'est gros, là.
Oui, c'est très gros.
Mais Jonathan, je sais qu'il a juste 22 ans, puis j'espère qu'il va devenir le gars qu'on attend, mais comment tu évalues l'an 1 de cette transaction-là, puis le jeu de Jonathan?
C'est facile pour dire, pour moi, de dire, mais moi, j'aurais pas fait cette transaction-là, c'est faux, probablement je l'aurais fait, la transaction. Que Jonathan Drouin était extraordinaire à Tampa, mais je l'aurais fait comme joueur, comme ailier, là. Alors, si le Canadien fait la transaction en pensant devenir un joueur de centre, c'était pas le cas. Puis je crois que Marc Bergevin savait très bien que Jonathan Drouin, en premier, est un ailier. Mais on manquait tellement de joueurs de centre, on s'est dit, on va l'essayer à cette position-là, puis si ça réussit, tant mieux, mais ça réussit pas. C'est pas sa position naturelle. Souvenez-vous, lors du match contre le Colorado, que Jonathan Drouin était extraordinaire. Il a marqué un but. Ce serait le but typique. De toute façon, on devrait voir Jonathan Drouin évoluer avec les Canadiens de Montréal.
Sur la passe de Petrie?
Il avait rentré au filet, complètement sur le flanc gauche, là. Mais il s'était rendu directement au filet. Et ça, ce qu'il réussit à faire plus comme ailier que comme joueur de centre. Comme joueur de centre, il arrive dans le territoire adverse, à la ligne bleue, va pivoter sur lui-même, va danser avec la rondelle, va dribbler avec celle-ci, avec ses mains excessivement rapides, et va chercher à faire une passe. Mais ne se sert pas de sa vitesse pour rentrer au filet, si tu veux. Comme il réussit à le faire, là, ce match-là, qui a marqué un but, selon moi, c'est une belle passe de Petrie, comme tu le mentionnes, parce qu'il s'est rendu au filet. C'est une chose, ben, beaucoup plus voir de lui, que je crois qu'à l'aile réussirait à faire plus souvent, tout simplement.
Si t'étais dans cette organisation-là ou dans une organisation qui n'a pas de joueur de centre là, vraiment là, imposant, impressionnant ou qui fait le travail sur une base régulière depuis autant d'années, t'aurais-tu une bonne excuse à me fournir en entrevue pour m'expliquer ça?
c'est très difficile à comprendre après de nombreuses années. Là, ça remonte pratiquement en 2003. Là. Hein, on se souvient des fameuses années 2003 où est-ce que les Jeff Carter et Ryan Getzlaff étaient disponibles au premier tour et que Patrice Bergeron était disponible au deuxième tour également. Là. Alors si, mettons, tu arrives aujourd'hui avec le 15e Montréal puis tu as Jeff Carter et Patrice Bergeron dans ton équipe comme voix de centre 1 et 2 ou Getzlaff et Bergeron, on parle pas des voix de centre aujourd'hui. Donc peut-être que la philosophie de l'organisation à l'époque n'était pas nécessairement là, d'avoir une urgence face à ça, mais on sait qu'après on parle des bons défenseurs, de bons gardiens, mais la ligne du centre est drôlement importante dans la Ligue nationale de hockey. Et puis là, ben ça peut
même être les dernières années, là, maintenant, c'est toujours. Je regarde juste le mandat de Marc Bergevin dans les 5-6 dernières années. Il n'y a pas moyen de colmater ça. Il y en a des.
Des transactions possibles, Mario, des transactions possibles. On a vu Marcus Johansson se retrouver, là, il a parti des Capitals de Washington. Écoute, il se retrouvait avec les Devils du New Jersey. Johansson était blessé cette saison, pas eu une bonne saison offensivement. C'est quand même un jeune joueur qui est très polyvalent, qui a déjà marqué 24 buts dans la Ligue nationale de hockey. Et puis on l'a obtenu pour un choix de deuxième, troisième tour. Là. Et on parle de Kyle Turris. On n'aurait pas fait de transaction avec Ottawa avec les Canadiens. C'est bien entendu que ça arrivera peut-être jamais, là. Mais il y a toujours une possibilité. C'est certain que Marc Bergevin a essayé. Il est pas assis dans son bureau à rien faire, là. Il essaie. Il appelle les autres directeurs généraux puis essaie de faire des transactions. Mais, c'est pour en faire une, c'est foutif. Pour danser, là, ça prend un partenaire. Puis, il réussit pas à les trouver présentement, là.
Comme ancien dépisteur, comment tu réagis? Parce que tu suis de près la situation du Canadien puis le hockey en général, de par ton travail puis de par ton intérêt naturel. Mais moi, comme observateur également, animateur des amateurs de sport, quand j'entends le DG, je comprends qu'il essaie de faire des affaires, puis ça marche pas tout le temps, puis là, on dit, c'est pas sa PlayStation, mais quand il dit après le 15e choix, il y a pas grand-chose, tu réagis comment quand t'entends ça?
Ça dépend des repêchages. Il y a pas un repêchage, c'est pareil comme l'autre, il y a des repêchages que des fois, après le 5e joueur, il y a plus grand-chose. Il y a des repêchages qu'après le deuxième tour, il y a encore quelque chose. Ça dépend de la profondeur de talent des différents repêchages. 2003, c'est le meilleur à vie, selon moi, là. Parce que tu repêchais 20e au premier tour, t'avais un joueur déjà d'impact dans la Ligue nationale de hockey. D'autres repêchages, j'ai raison, t'arrives à 15, puis oups, le joueur 17, 18, c'est des gars de troisième trio, des défenseurs 5 ou 6. Ça peut arriver, là. C'est comme les grands crus avec les 20, là. Et des bonnes années, des moins bonnes années. J'ai ouï dire que cette saison, c'est très, très bon.
Oui.
Mes amis recruteurs m'ont confié, qui n'est pas un secret pour personne, que c'est une très bonne année au niveau de recrutement, que de la profondeur dans le talent au premier tour et même au deuxième tour.
Est-ce que c'est vrai, une autre remarque ou un autre commentaire de Marc Bergevin, des fois, que ça, on n'aime pas l'entendre, peut-être que c'est la réalité, mais on aimerait ça entendre autre chose, on dirait, quand il dit, ben, après le 15e, on roule les dés. On roule tous les dés dans le
dépistage? Non, on roule pas de dés dans le repêchage parce que...
We roll the dice!
Non, ça fonctionne pas comme ça. La liste de repêchage au premier tour, elle coûte cher à l'organisation, là. T'as 10, 12 recruteurs sur la route toute la saison avec les dépenses que ça amène, le salaire des recruteurs et tout ça, là. Ça vaut des millions, cette liste-là, là. Y a pas question de pile ou face sur repêchage au premier tour, là. Tes joueurs ont évalué du numéro 1 jusqu'au numéro 31 cette année avec Vegas. De 1 à 31 dans l'ordre, là. Puis tu fais pas de changement là-dedans, là. T'es à la table au premier tour, puis tu repêches le joueur qui arrive. Si le joueur que tu veux est parti, puis c'est l'autre après que tu vas prendre, tout simplement. Là, rendu au deuxième tour, quelquefois, les acteurs gérants vont te dire, écoute, Alain, on manque de profondeur à l'aile gauche. Fait que si, mettons, qu'on évalue des joueurs qui se ressemblent, on a un défenseur droitier, un ailier gauche, un joueur de centre, mais qui nous dit, c'est des joueurs quand même qu'au niveau, là, statistique, au niveau talent, au niveau évaluation, qui peuvent se ressembler au niveau de la projection qu'on fait. Peut-être qu'on peut aller vers un ailier gauche pour amener la profondeur de l'organisation pour combler les déficits qu'on a au niveau de l'organisation elle-même par rapport aux différentes positions. Ça peut arriver. Puis là, après ça, au troisième, quatrième, cinquième tour, Mario, très souvent, là, c'est le recruteur des régions qui va se battre pour avoir un joueur. Je me souviens, toute ma vie, moi, on avait un Glenn Cochran, qui était recruteur pour nous avec les Ducks, justement, dans l'Ouest canadien, la mer à Kelowna. Puis Glenn Cochran était un homme fort avec les Flyers de Philadelphie à l'époque, un défenseur. Inutile de dire que c'est un très, très bon gabarit. Fait qu'on arrive au troisième tour du repêchage. J'ai vient me voir et dit, Alain, j'aime bien ça que tu penses, que tu considérais repêcher mon joueur, là. Je vais donner le nom tantôt. Ah, sinon, c'est trop de bonheur, Glenn. On va attendre le quatrième tour. Au quatrième tour, il est encore là. Fait que là, il vient me voir, il dit, Alain, mon joueur, je vais attendre au cinquième tour. Il me fait une crise, là. Là, il me fait une crise, comme même m'arrache à la tête, là. J'ai eu peur. Là, j'ai dit,
ça se passe
sur la table du repêchage. Il était vraiment pas heureux de la situation. J'étais avec Martin Madden à l'époque. Vous connaissez, Martin était là. Finalement, on parlait, on discutait avec Martin, on a entendu. Et puis, on l'a repêché au sixième tour. Son nom, c'est Josh Manson, qui est un joueur physique avec les Ducks, qui a une belle carrière.
Le fils de Dave.
Le fils de Dave. on a fait l'erreur. On aurait dû écouter, sincèrement, de l'avoir pris au quatrième tour, parce que peut-être qu'il serait parti en cinquième tour, puis que là, il jouerait pour une autre organisation. Les recruteurs se battent pour leurs joueurs. Le recruteur de l'Ontario qui vient de voir, là, puis là, il force pour son gars, puis parce que la liste, m'en est, la prend, on peut plus la suivre après un certain temps, parce que ça part à gauche et à droite, ça fait pas tous les sens. Faut que tu te fies à tes recruteurs, qui tu fais confiance, qui eux vont se battre pour leurs joueurs, puis qui ont ça avec le gut feeling, ils disent, hey, lui, il va jouer, puis je suis certain. Fais-leur confiance, donne-leur le joueur, puis très souvent, là, il faut connaître du succès.
C'est très intéressant. On doit s'arrêter le temps d'une pause et on revient pour la conclusion avec notre invité aujourd'hui, Alain Chesnais.
Mario Langlois rencontre au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour. Notre invité aujourd'hui, Alain Chesnais, je vous le rappelle, si vous joignez à nous à l'instant, a été directeur du recrutement et du personnel des joueurs des Ducks d'Anaheim. En tout et partout, dans cette fonction-là, une quinzaine d'années, Alain?
Oui, j'étais 20 ans avec les Ducks.
20 ans avec les Ducks, puis dans une position comme celle-là, très longtemps. Mais avant, je veux retourner un petit peu dans ton passé, parce que t'en as vu, là, tu dois en avoir des bonnes histoires à raconter. Les Nordiques de Québec, t'as été adjoint. Hey, on parle des portes tournantes du personnel des joueurs à Montréal depuis une couple d'années, là. Écoute, t'as été adjoint 3 ans, je pense, t'as eu 4 entraîneurs-chefs, Ron Lapointe, André Savard, Jean Perron, Michel Bergeron.
Exactement.
As-tu une couple d'histoires par rapport à ces années-là? Puis comment tu as vécu ça, là?
Tous des entraîneurs avec une personnalité différente. J'ai réussi à apprendre quand même de chacun d'eux, là. Écoute, André Savard est un entraîneur qui était quand même bien structuré, puis c'est un entraîneur qui était exigeant également, qui voulait que ça fonctionne là, comme il souhaitait. Et là, on arrive avec Jean Perron, qui était plus peut-être un technicien, genre là, la technique d'hockey, les éducatifs durant les entraînements, ces choses-là. Michel, qui était flamboyant derrière le banc, là, comme ça se peut pas, là, écoute, incroyable. Puis Ron Lapointe, qui est un mélange un peu d'un entraîneur qui est capable de motiver, puis est capable également de niveau technique de bien faire là, comme entraîneur. Donc, j'ai appris de tous ces gens-là. Écoute, il y a des anecdotes extraordinaires. Écoute, 31 points avec Michel la dernière saison, on a eu avec les Nordiques. 31 points au classement général. Je peux dire qu'on n'était pas tellement bien vus dans la ville de Québec.
Avec Joe Sakic, hein?
Avec Joe Sakic. Et surtout qu'on avait des autos fournies qui étaient inscrits dans les portes, là, si tu veux, avant. C'est marqué propriété des Nordiques de Québec. Alors, t'arrivais, mettons, à un feu rouge, là, puis tu sentais qu'il y avait des regards vers toi, puis là, tu regardais. Viens-tu de dire qu'est-ce que les gens faisaient avec leurs mains, là, qu'ils te regardaient. C'est absolument, c'était vraiment spécial. Mais malgré tout ça, le Colisée était plein quand même, puis il y avait une très, très belle ambiance. Mais faut se souvenir qu'à l'époque, on avait échangé Michel Goulet, on avait échangé Peter Stachny. Alors, Michel, il n'y avait plus rien devant nous, pratiquement, sauf le jeune Joe Sakic, qui était extraordinaire, mais personne ne pouvait vraiment.
Guy Lafleur, pour l'appuyer. Le retour de Guy?
Le retour de Guy Lafleur également à l'époque.
Alors, c'était quoi d'accueillir Guy à son retour de New York dans l'uniforme des Nordiques qui était là, toi?
Ah oui, on avait un gardien de but qui avait vraiment peur. Du tir à Guy Lafleur, là, un russe là, à l'époque.
Milnikov,
le camp Guy, on sait qu'il faut que Guy a eu toujours possédé un tir absolument incroyable. Là. Et lorsqu'il arrivait à la ligne bleue pour utiliser son tir frappé, Milnikov sortait du filet.
Ben voyons
t'es
donc.
Pas intéressé.
En pleine impratique.
Ah non, il avait vraiment peur du tir à Guy Lafleur. Alors, inutile de dire que, ouais, il y a beaucoup d'anecdotes. Et Guy, on sait, il possède un tir absolument extraordinaire.
Et tu as été donc adjoint de tous ces gars-là. Ron Lapointe, qui malheureusement est décédé des suites de la maladie, donc n'a pas été là tellement longtemps. Mais tu as vu aussi beaucoup d'instabilité. Est-ce que tu as vu que ça affectait une équipe, l'instabilité derrière un banc, d'une certaine façon? Ou...
Ben, écoute, c'est difficile pour les entraîneurs. Saison après saison pour les joueurs, c'est une nouvelle structure de jeu également. Beaucoup d'adaptation. Des joueurs qui arrivaient à Québec qui ne voulaient pas être là. Il y avait beaucoup de joueurs, ils voulaient pas venir jouer à Québec. Il y avait des transactions qui étaient effectuées, puis les joueurs arrivaient à Québec. Là. Tout ce qu'ils souhaitaient, c'est de partir de Québec. Alors, c'était pas facile pour les entraîneurs d'établir une structure efficace, puis un esprit d'équipe. Puis il y avait des jeunes joueurs comme Joe Sakic et des plus vieux également qui. C'était très, très difficile, Mario, ces années-là, surtout l'année avec Michel à 31 points. Là, et les joueurs travaillaient quand même d'arrache-pied. Puis on n'avait pas ce qu'il fallait pour gagner.
Tu as été entraîneur-chef par la suite avec les Harfans de Beauport et les Tiques de Victoriaville. Et tu as trouvé ça difficile au point de te remettre en question par rapport à ton désir d'être entraîneur-chef dans le hockey. Puis ça n'a pas été une mauvaise décision parce que c'est par la suite dans un rôle de recruteur que tu as vraiment fait carrière. Mais si tu peux me partager la réflexion que tu me partageais avant d'entrer dans le studio, Alain, j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
C'est arrivé à Victoriaville lorsque les Tiques avaient remercié leur entraîneur à peu près à la période des fêtes. Ils m'avaient engagé pour terminer la saison, plus une autre saison comme entraîneur, une année si tu veux.
À l'époque d'Alexandre Daigle.
Exactement, que j'ai eu la chance de diriger. Puis là, ben après ma demi-saison comme entraîneur, écoute, j'avais de la misère, de la difficulté à m'ajuster à la nouvelle réalité des jeunes. portait à faire un petit peu trop de crise sur la patinoire et dans la chambre des joueurs également. Je voulais, c'est pas que j'étais très, très autoritaire, là, puis que j'étais qu'un entraîneur militaire, mais, tu sais, les jeunes aujourd'hui, c'est, quelquefois, sont portés à la facilité des choses, j'acceptais pas ça. Alors, à la fin de la saison, quand le bureau de direction des Tigres me voir, on me dit, écoute, Alain, tu vas bien l'an prochain, j'ai dit, non, je reviens pas. Ça c'est pas vous rendre service de revenir. Ça c'est pas me rendre service également de revenir. Je pense plus que j'ai les capacités pour m'ajuster et m'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui, tout simplement.
Mm-hmm.
Et je savais pertinemment, cependant, Mario, faut être honnête, que les Nordiques m'avaient un petit peu approché comme recruteur à l'époque, là, pour faire le Québec et tout ça. Fait que je me disais, peut-être c'est une avenue que j'aurais explorée également. Mais j'ai décidé par moi-même, nécessairement, de pas revenir à Victoriaville parce que j'avais la difficulté à m'ajuster à la jeunesse d'aujourd'hui. Là.
Ben, c'est vraiment humble de pouvoir le partager avec nous, de le dire ainsi, parce que je suis convaincu que, à tous les niveaux du hockey, il y a bien des gens qui, à un moment donné, sont confrontés à leurs limites par rapport à des défis que tu n'anticipes pas là, dans du hockey compétitif ou parfois du hockey mineur. Le pinacle de ta carrière, nécessairement la Coupe Stanley,
ah, oui,
2007
oui.
Avec les Ducks d'Anaheim.
Oui, oui, c'était absolument extraordinaire. Des moments fantastiques. J'ai jamais vu le match seulement, donner une idée comment j'ai trouvé ça intéressant, la finale de la Coupe Stanley. Je suis arrivé dans l'aréna au début du match, puis c'est comme si une voix intérieure me disait « Alain, si tu demeures dans l'aréna, vous allez perdre ». Alors, en veston cravate, il y a une grande avenue à Anaheim, ça s'appelle Catella Avenue. J'ai marché là-dessus durant 2h30 de temps, veston, cravate, puis là, je regardais ma montre, puis je me disais, on est rendu à la troisième période. Puis là, je suis revenu vers la fin, puis là, j'arrivais dans le stationnement, puis j'ai rentré dans la
fait-up,
puis j'ai dit au placier, c'est comment que c'est le pointage? Il dit, c'est 5-2 pour les Ducks, c'est 4 minutes à faire dans le match. Là, j'ai dit, on va gagner la Coupe Stanley. Fait que là, j'ai vu les 4 dernières minutes de jeu, on a marqué un autre but. Et après le match, je me suis dirigé dans la chambre des joueurs pour festoyer avec tout le monde. Puis c'est là que j'ai vu Teemu Selänne, ça a été vraiment spécial. Teemu Selänne qui est monté sur la fameuse table du centre de la chambre des joueurs, si tu veux. Et après, Coupe Stanley, il l'a levé dans ses bras, puis il m'a pleuré. Puis lorsqu'un petit enfant est pâmé, il a mis à respirer. Là, c'était pareil pour Teemu Selänne. Alors, c'est absolument... tout le monde avait la chair de poule, tout le monde pleurait de le voir agir de la sorte. Là. Alors, c'était des moments fantastiques, bien entendu. Puis j'avais fait seulement enregistrer le match chez moi. Alors, lorsque je suis revenu 4-5 jours après, je prenais un bon verre de vin, je me disais, ah, là, on va regarder la partie, je suis sûr qu'on va gagner. C'est
il y en a-tu bien du monde de même dans l'hockey qui veulent pas regarder les matchs pendant qu'ils se déroulent? Je sais pas si t'as vu le film Moneyball
d'Eli Bean. Oui.
Il assiste pas au match, t'as vu, hein, il se fait ça à distance, il est d'un gradin vide, son équipe joue à l'extérieur, puis c'est drôle, tu me racontais ça, puis je voyais ça, la nervosité, désir de gagner.
C'est une voix qui me disait, reste pas là, fait qu'écoute, je lui dis, non, je voulais absolument gagner, je lui dis, si cette voix-là me dit de partir, je vais partir.
Et plusieurs des choix de repêchage que t'as effectués avec ton équipe de repêchage ont contribué à cette coupe-là en 2007, ça doit être un élément de satisfaction. Tu sais, c'était pas l'héritage d'un autre, là. C'était tes choix en grande partie, puis des échanges.
Le deuxième trio, c'était Penner, Dustin Penner, avec Ryan Getzlaff et Corey Perry. C'était notre deuxième trio avec les Ducks à l'époque. Alors, ces jeunes-là, inutile de dire que ce fut des joueurs d'impact pour Anaheim par la suite. Et notre premier trio, je me souviens bien, là, c'était Andy McDonald, Chris Kunitz puis Teemu Selänne.
Tu viens tout juste de célébrer, puisque nous sommes le 10 février. Je sais pas ce qui va se passer cette année, là, mais les chiffres sont alignés, là. C'est parce que le 6 février, t'as eu 66 ans le 6 février.
C'est ça, oui, absolument. Écoute.
Bonne fête en retard, Alain.
Merci Mario. Je peux pas avoir les cheveux plus grands.
6-6-6, là. Le chiffre
dangereux, là. Mais disons que je peux pas avoir les cheveux plus blancs que les ailes, là. Fait que je suis correct, là. Non, écoute, en vieillissant, le temps passe tellement rapidement, ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai encore énormément de passion pour le hockey, puis ça a été toute ma vie, finalement, ça y est encore. Fait que non, j'adore le hockey. Inutile de dire que je vois plusieurs matchs, là, puis je suis toujours sur le bout des orteils, pratiquement.
Même si ta carrière a été très satisfaisante, bien remplie, t'en as vécu toutes sortes, t'as vécu le succès, t'es-il déjà arrivé de te dire, j'aimerais ça que le téléphone sonne, je pense que je peux aider un club de hockey qui est pas loin?
Écoute, si un jour ça arrive, c'est certain que je vais écouter parce que j'ai encore cette passion-là, c'est en moi, ça a toujours été là, ça l'est toujours. Mais disons que
t'attends pas après ça.
J'attends pas après ça. Je fais mettre mon petit bout de chemin tranquillement et si un jour ça arrive, je vais me mettre heureux.
Alain Chesnais, merci beaucoup pour cette belle heure. À la prochaine, j'espère. Merci. Voilà, notre invité était donc Alain Chesnais. On se retrouve lundi aux Amateurs de sport. Merci beaucoup d'avoir été là.